Les yeux au ciel. Les yeux au ciel avec Anne-Françoise Marie pour découvrir les merveilles des étoiles.
Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une petite constellation. Mais son étoile principale est tellement brillante qu'elle est vraiment facile à observer. La Lyre est visible au zénith pendant les nuits d'été. Le zénith, c'est le point le plus haut du ciel, situé au-dessus de l'observateur. À l'opposé, le nadir est le point le plus bas, donc il est en dessous de nos pieds. La constellation de la Lyre est assez facile à repérer. Il suffit de bien lever les yeux. Vous verrez tout de suite son étoile la plus brillante, Vega, qui fait partie du triangle de l'été, appelé également triangle des nuits d'été ou encore les trois belles de l'été. Ce triangle est composé de trois étoiles très brillantes. Vega dans la constellation de la Lyre, Deneb dans la constellation du Cygne et Altaïr dans la constellation de l'Aigle. Ces trois étoiles sont visibles toute la nuit pendant l'été. Et malgré son nom, le triangle de l'été est aussi visible le reste de l'année dans l'hémisphère nord, mais pas toute la nuit. Il a l'apparence d'un triangle isocèle dont Altaïr serait le sommet, et le segment Deneb-Vega serait la base. Même avec des conditions mauvaises d'observation, comme la brume ou l'observation en ville, ce triangle reste facile à observer. Alors revenons à notre Lyre. D'autres étoiles sont visibles dans cette constellation qui a une forme d'un club de golf. Les quatre autres étoiles moins brillantes que Vega forment une espèce de parallélogramme, mais très petit. La Lyre, c'est une constellation ancienne. Les civilisations antiques au Moyen-Orient et en Inde y voyaient un vautour. D'ailleurs, le nom Vega vient de la phrase arabe qui veut dire le vautour plongeant ou l'aigle tombant. Les astronomes grecs, eux, y voyaient une lyre, ou plutôt une kithara, qui est une lyre grecque. Et les cartes du ciel les plus vieilles la représentent également comme tenue dans les griffes d'un vautour. Sous la forme du vautour, cette constellation s'est raccrochée à la légende d'Hercule, qui pour son sixième travail tua les oiseaux du lac Stymphale. La constellation est d'ailleurs assez proche du cygne et de l'aigle. Beaucoup de constellations sont raccrochées à la légende d'Hercule, alors nous en reparlerons. Mais une autre explication mythologique est présente. La lyre serait un des instruments de musique d'Orphée. Orphée était un musicien et un poète. Il était le fils du roi de Tars et de la muse Calliope, la muse de la poésie épique. Le jour même de ses noces avec Orphée, la dryade Eurydice, fuyant Aristée qui l'importune, est mordue par un serpent caché dans les hautes herbes. Elle en meurt et descend au royaume des enfers. Orphée est inconsolable. Il descend à sa suite et après avoir endormi de sa musique enchanteresse Cerbère, le monstrueux chien à trois têtes qui garde l'entrée, il rentre dans le royaume des enfers. Il peut approcher le dieu Hadès et son épouse Perséphone. Il parvient, grâce à sa musique, à le faire fléchir et celui-ci le laisse repartir avec sa bien-aimée, à condition qu'elle le suive en silence et qu'il ne se retourne ni ne lui parle tant qu'ils ne seront pas revenus tous les deux au royaume des vivants. Alors qu'Orphée s'apprête à sortir des enfers, n'entendant plus les pas de sa bien-aimée et impatient de la voir, ayant peur que son amour lui échappe, il se retourne imprudemment et la perd à jamais. Il semblerait que le mythe d'Orphée ne soit pas propre à la seule culture de la Grèce antique, mais qu'il y ait des origines plus anciennes, peut-être paléolithiques. Cela a été remarqué dès la fin du 19e siècle par le philologue Charles-Félix Hyacinthe Gouillet, lequel indiquait un récit semblable chez des Iroquois. Il est possible que les deux légendes similaires aient une seule et même origine, une légende remontant jusqu'au temps paléolithique, qui, à une époque impossible à préciser, aura été transportée au Canada au gré des migrations humaines. Revenons à Vega, qui est tellement brillante qu'elle est une référence dans l'histoire de l'astronomie. Elle collectionne les premières places. Première étoile autre que le Soleil à avoir été photographiée. Le cliché, un daguerreotype, date du 17 juillet 1850, au Harvard College Observatory. Vega est également à l'origine de la première image d'un spectre électromagnétique. C'est son premier photographe, John Draper, qui prit la première image du spectre électromagnétique d'une autre étoile que le Soleil. Mais qu'est-ce que donc que le spectre d'une étoile ? Vous le savez sûrement parce que vous avez déjà observé un arc-en-ciel. La lumière blanche est un mélange de plusieurs lumières, de plusieurs couleurs, de plusieurs longueurs d'onde, qui peuvent être décomposées quand elles passent dans une goutte d'eau ou dans un prisme, par exemple. C'est Newton le premier qui a fait cette découverte, en constatant, en 1666, que, au travers d'un prisme, la lumière blanche se décompose en un spectre continu, qui va du violet au rouge, comme dans un arc-en-ciel. Deux siècles plus tard, on constate la présence de raies noires dans le cercle de lumière, comme des trous. Et l'opticien allemand Fraunhofer découvre que ces raies sont provoquées par l'absorption de certaines longueurs d'onde par les milieux qu'elles traversent. Autrement dit, quand la lumière traverse certains gaz, par exemple l'oxygène, certaines longueurs d'onde peuvent être absorbées par le gaz et former des trous que l'on observe dans le spectre final. Et pour chaque gaz, ces trous ont une forme originale. On peut donc, à partir de l'observation d'un spectre, déduire quel gaz la lumière a traversé. En observant le spectre de Vega, Draper va repérer ces trous et postuler qu'on peut, grâce à ça, déduire l'atmosphère des étoiles, qui semblait jusqu'alors inaccessible. Et c'est à la suite de cette découverte que le jésuite Angelo Cicci, de l'Observatoire du Vatican, va analyser les lumières de plus de 4000 étoiles et les classifier. Au XXe siècle, un catalogue complet sera produit aux États-Unis, après un des premiers projets quasi-industriels de l'astrophysique, qui permet d'éditer 9 volumes entre 1931 et 1934. C'est le catalogue Draper, du nom du photographe de Vega, qui classifie plus de 200 000 étoiles. Fait partie d'un astérisme. Souvenez-vous, je vous en ai déjà parlé. Un astérisme, c'est un regroupement d'étoiles qui pour nous a une forme particulière, mais qui n'ont pas forcément de lien physique entre elles. Cet astérisme est très connu, ce sont les trois brillantes de l'été, le triangle de l'été, formé par Vega, Deneb du Cygne et Altaïr de l'Aigle. Un très grand triangle, facile à repérer dans les nuits d'été. En début de nuit, Vega est presque au zénith, et le triangle s'étend vers l'est. Quand vous aurez repéré ce triangle, vous pourrez alors observer d'autres objets. Par exemple, la constellation de la Flèche, une petite constellation située entre Altaïr et la Tête du Cygne, à l'intérieur du triangle. Elle est composée de 4 étoiles bien alignées. Elle pourrait être la flèche tirée par Hercule pour atteindre l'Aigle ou le Cygne, ou encore la flèche du Sagittaire. Au-dessus de cette flèche, vers le centre du triangle des Belles de l'été, vous trouverez la constellation du Petit Renard. Elle est peu connue car peu brillante. Elle demande des bonnes conditions d'observation afin d'être repérée. Si vous êtes en ville, il sera difficile de la repérer. Mais si vous êtes à la campagne, essayez de chercher la forme d'un W, un peu comme Cassiopée. Elle n'a d'ailleurs pas toujours été proprement identifiée. C'est seulement à la fin du XIXe siècle que l'astronome polonais Jonas Hevelius lui donne le nom de Velpecula cum Anser, le petit renard éloi. L'oie, qui était représentée dans la gueule du renard, n'est plus présente officiellement, mais a donné son nom à l'étoile alpha, qui s'appelle Anser. Entre le petit renard et Albireo, la bêta du cygne, vous pourrez voir, si votre œil est excellent, ou alors, si vous avez des jumelles, un amas, qui est appelé l'amas du cintre. Ce sont 10 étoiles en forme de porte-manteau. Ce n'est en fait pas un amas, mais c'est un astérisme, car les étoiles n'ont pas de lien entre elles, ni par leur position, ni par leur histoire. Il y a également un magnifique objet du ciel profond à observer dans la constellation du Petit Renard. C'est la nébuleuse de l'Altair. C'est une immense nébuleuse planétaire. Elle peut même être observée avec une bonne paire de jumelles, où elle apparaît comme un disque faiblement lumineux. Et lorsqu'on l'observe avec un télescope de 150 ou 200 mm, cette nébuleuse M27 a la forme d'un double lobe, comme un sablier. M27 a été découvert par l'astronome Charles Messier en 1764. Si on compte le faible halo, sa taille est égale à la moitié de la celle de la Lune. D'après cette taille, on peut à peu près estimer son âge à 3000 ou 4000 ans. L'étoile centrale, qui est à l'origine de la nébuleuse, est faiblement lumineuse et assez difficilement observable pour un astronome amateur. C'est une naine blanche, elle est de couleur bleue, ça veut dire qu'elle est très chaude. Dans la constellation de la Lyre, il y a aussi deux étoiles doubles qu'on peut facilement observer aux jumelles. Il s'agit de Delta Lyre et Epsilon Lyre. Epsilon est lui-même un système multiple, situé à 160 années-lumière de la Terre. Il est surnommé la double-double. D'une magnitude de 4,5, elle est visible dans un ciel de banlieue urbaine. Avec une excellente vue, vous pourrez distinguer deux points brillants. Là, on touche vraiment aux limites de capacité de l'œil humain. Si vous avez une bonne paire de jumelles, Epsilon 1 et Epsilon 2 seront bien distinctes. Et si vous avez une bonne lunette, avec un grossissement x 50 à peu près, vous verrez que les deux points sont en fait composés chacun de deux étoiles. Si enfin vous pouvez grossir jusqu'à 150 fois, alors là, ça devient très joli. Car on voit qu'un couple est perpendiculaire à l'autre. Terminons notre observation par Chéliac, bêta de la Lyre. On peut penser, au premier abord, que c'est une simple étoile blanc-bleu. Eh bien en fait, non. Non seulement elle brille comme demi-soleil, mais en plus c'est une étoile variable. Sa luminosité peut être suivie, comme celle de la fameuse Algol, même à l'œil nu. C'est une étoile qui a été largement étudiée depuis le XVIIIe siècle. Sa luminosité varie pour un maximum tous les 13 jours, avec des magnitudes allant de 3 à 4. À son maximum, elle brille comme gamma de la Lyre, tandis qu'à son minimum, elle brille comme kappa de la Lyre. En comparant périodiquement sa luminosité avec gamma et kappa, on peut facilement suivre ses variations à l'œil nu ou sur des photos. Mais alors, pourquoi Chéliac varie ? Eh bien parce que c'est une binaire spectroscopique à éclipse. Ça veut dire que sa luminosité varie car elle a un compagnon, une étoile qui gravite si près d'elle qu'elle se déforme mutuellement par effet de marée. Un disque de matière se forme même autour de l'une d'entre elles. C'est leur valse périodique qui provoque la variation de luminosité. Je vous laisse sur le site de Radio Présence des informations complémentaires ainsi que des illustrations pour cet épisode que vous pourrez réécouter en podcast.